L'opposition fédérale demande au gouvernement australien des comptes sur l'effet Trump sur les accords entre l'Australie et les États-Unis en matière d'immigration. Une dernière ligne droite pour le second tour des primaires de la gauche sur fond de scandale à droite. Et après avoir reçu le Premier ministre britannique, le président Trump va s'entretenir avec d'autres leaders mondiaux. Selon l'opposition fédérale, le gouvernement australien doit expliquer les conséquences sur l'Australie des nouvelles mesures anti-immigration prises par la nouvelle administration américaine. Canberra, selon les leaders de Labour, doit surtout éclaircir l'avenir de l'accord d'échange des migrants conclu entre l'Australie et les États-Unis à la fin de l'année dernière. Selon cet accord, des migrants détenus actuellement dans des centres de détention de Nauru et Manus Island seront transférés aux États-Unis. Mais l'administration Trump vient de signer un décret interdisant l'accès au territoire américain de migrants venant d'Iran, de Syrie et de Turquie. S'adressant à la ABC, Shane Newman, le porte-parole de l'opposition fédérale en matière d'immigration, déclare que la population australienne a le droit de connaître l'avenir de l'accord entre l'Australie et les États-Unis.
The government's not saying very much at the moment. Not one person has been resettled as a part of the government's much crowed about refugee transfer deal with the United States. And I think the government's got to urgently explain the implications of any particular restrictions that the US government under President Trump is going to make. And at the moment, even the foreign minister was refusing to express confidence that the refugee swap would go ahead. I think the public in Australia deserve some answers from the government.
Et précisément, alors que se trouve aux États-Unis, la ministre des Affaires étrangères, Julie Bishop, a refusé catégoriquement de se prononcer sur l'avenir des accords d'échange de migrants entre l'Australie et les USA. Répondant aux questions pressantes des journalistes, Julie Bishop s'est contentée de brosser le tableau en grande ligne de ses pourparlers avec les officiels de la nouvelle administration américaine.
I've had a number of discussions with members of the administration, and most certainly we've discussed a range of bilateral issues. I won't go into the details, but I have discussed many issues with the incoming administration.
Et toujours concernant des migrants, mais cette fois-ci à l'autre bout du monde, dans la Méditerranée, bien hier, environ 1000 personnes ont été secourues au cours de plusieurs opérations en mer Méditerranée et des opérations qui étaient menées par des gardes-côtes italiens. Bien, plusieurs corps, un corps a été repêché et environ 1000 personnes ont été secourues. Les migrants qui ont été secourus se trouvaient à bord de 6 canots pneumatiques et 3 barques en bois et selon l'ONU, plus de 5000 personnes ont trouvé la mort l'an passé en tentant de traverser la Méditerranée pour gagner l'Europe, pour la plupart au large de la Libye. Il s'agit du bilan le plus lourd jamais enregistré. Et hier, l'hiver n'a pas mis un terme aux tentatives, contrairement aux années précédentes, mais a juste la mauvaise saison a juste ralenti le rythme des départs. Et les dés sont jetés. En moins de 24 heures, le deuxième tour des primaires de la gauche va commencer. Après avoir passé l'entre deux tours à multiplier les interventions à la radio, à la télévision et en meeting, Benoît Hamon, le favori de la gauche, a mis un terme à sa campagne hier. C'était à Lille. Et Benoît Hamon a assuré une dernière fois à ses militants qu'il ne s'épargnerait aucun effort pour rassembler la gauche, et ce, s'il remportait dimanche la primaire organisée par le PS.
Cette élection, on nous la présente, quand on écoute les commentateurs officiels, comme une élection un peu perdue d'avance, où la gauche devrait y aller la tête baissée, comme prête à aller à l'échafaud. En vérité, et c'est peut-être cela qui gêne, la victoire, elle est là, à portée de main. Ne doutez pas que la victoire soit possible. N'en doutez pas, mais soyez même convaincus et convaincants que cette victoire est possible. En mai 2017, pas simplement dimanche qui vient, vous êtes ici, au cœur de ce qui peut être le point de départ d'une immense aventure, c'est-à-dire une aventure de transformation sociale, démocratique et écologique de la société française. Ne ratez pas cette occasion, ne vous donnez pas 5 ans de délai, il n'y aura pas de deuxième rendez-vous. Prenez-la, imposez le rassemblement de la gauche, donnez-moi de la force dimanche prochain, et ainsi, en mai 2017, nous gagnerons.
face aux favoris de la gauche, il y a Manuel Valls, l'ancien premier ministre. Eh bien, il a aussi appelé ses partisans à lui faire confiance et à ne pas baisser les bras. L'ancien premier ministre y croit encore et il croit pouvoir même remporter la présidentielle, surtout après les déboires publics du candidat de la droite.
Rien n'est écrit et en effet, tout est possible. D'abord pour l'élection présidentielle. Cette élection présidentielle n'est pas écrite. François Fillon qui est empêtré d'abord dans les contradictions de son programme, avec ses propres contradictions aussi, vous le voyez bien. Tout cela démontre que l'élection présidentielle est très ouverte, avec un risque majeur, je veux le rappeler, qui est le risque de l'extrême droite. Donc on ne joue pas avec cela. Mais je suis convaincu que les électeurs de gauche, les progressistes, sont peut-être en train de se rendre compte, là, en ce moment, que la gauche peut gagner de nouveau l'élection présidentielle.
Et il faut souligner que depuis la révélation du canard enchaîné, en milieu de semaine, sur l'emploi présumé fictif de son épouse Pénélope comme attachée parlementaire, eh bien, François Fillon et ses proches tentent très maladroitement de circonscrire l'incendie avec des résultats qui vont de mal en pis. Explication Franck Alexandre pour RFI.
L'encre du canard enchaîné était à peine sèche quand François Fillon a tenté une première fois de balayer ses révélations. Mais pour seule défense, l'ex-député se contente de dénoncer le mépris et la misogynie de l'article de presse. C'est un peu court, le malaise est perceptible, l'affaire prend de l'ampleur. Alors jeudi soir, pour désamorcer la crise, l'ancien Premier ministre s'invite au journal de 20h. En quelques minutes, il retrace le parcours professionnel de son épouse, à ses côtés en politique depuis 1981, d'abord bénévolement, puis comme attaché parlementaire depuis 1997. L'écueil, c'est qu'à plusieurs reprises dans la presse, Pénélope Fillon a assuré ne s'être jamais impliqué dans la vie politique de son mari. Dernière bévue, François Fillon, tentant de jouer la transparence, a indiqué que lorsqu'il était sénateur, il lui est arrivé de rémunérer deux de ses enfants avocats pour des missions précises en raison de leurs compétences. Vérification faite, ses enfants n'étaient pas encore officiellement avocats. Ces trois derniers jours, la défense maladroite de François Fillon s'est muée en un véritable chemin de croix.
Et pour sa première rencontre internationale, Donald Trump a accueilli hier la première ministre britannique Theresa May à la Maison Blanche. Les deux dirigeants ont esquissé ensemble les relations post-Brexit avant de tenir ensemble une conférence de presse. Donald Trump a réaffirmé les relations privilégiées entre Londres et Washington, tandis que Theresa May, qui s'exprimait essentiellement en matière de défense, a dit qu'en cette matière de défense, son hôte américain lui a confirmé son attachement à l'OTAN.
On defense and security cooperation, we're united in our recognition of NATO as the bulwark of our collective defense. And today, we've reaffirmed our unshakable commitment to this alliance. Mr. President, I think you said you confirmed that you're 100% behind NATO. But we're also discussing the importance of NATO continuing to ensure it is as equipped to fight terrorism and cyber warfare as it is to fight more conventional forms of war.
Et après la visite de Theresa May, le président Trump a confirmé qu'il comptait s'entraîner pendant la journée avec d'autres leaders mondiaux, dont le président russe Vladimir Poutine, le chef de l'État français François Hollande et Angela Merkel, la chancelière allemande. Et on reste d'ailleurs en Allemagne, où le gouvernement vient de se doter d'un nouveau ministre des Affaires étrangères, un ministre atypique, en la personne de Sigmar Gabriel, qui remplace Frank-Walter Steinmeier, qui doit être élu président de la République fédérale prochainement. Portrait du nouveau ministre des Affaires étrangères allemand et contexte de sa nomination avec Pascal Thibault pour RFI.
Dans mon prochain poste, je ne pourrai plus continuer comme ça, c'est ce que m'a dit Steinmeier. Sigmar Gabriel a plaisanté hier à la tribune du Bundestag sur sa réputation de provocateur né. Il y tenait son dernier discours de ministre de l'économie avant de devenir aujourd'hui le nouveau patron de la diplomatie allemande. Gabriel est connu pour son franc-parler et son côté imprévisible, des qualités a priori antinomiques pour un ministre des Affaires étrangères. Sa nomination constitue une surprise. Comme ministre de l'économie, Sigmar Gabriel a effectué de nombreux déplacements à l'étranger et mené une diplomatie parallèle qui a parfois provoqué quelques remous. À l'automne dernier, il s'en prenait ouvertement à Pékin critiquant le rachat par des investisseurs chinois d'entreprises allemandes de pointe. Ses propos sur le régime d'apartheid pour dénoncer les colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés avaient aussi fait parler d'eux. Sigmar Gabriel vient de renoncer à être le challenger d'Angela Merkel à l'automne au profit de Martin Schulz, mais ses déclarations critiques contre les sanctions à l'égard de la Russie ou ses attaques contre la chancelière cette semaine, accusée de laisser après 12 ans l'Europe plus divisée que jamais, pourrait rendre la cohabitation avec Angela Merkel plus difficile.
Et ce samedi 28 janvier se tient le nouvel an chinois et vietnamien, bien dans de nombreux pays d'Asie, mais également dans de nombreuses grandes villes à travers le monde. Des centaines de millions de personnes vont marquer l'événement. Et à l'occasion de ce nouvel an chinois, hier, le port de la baie de Ciné et la maison de l'opéra de Ciné baignaient dans des lumières rouges. Le festival doit durer 17 jours, ce à la grande joie de Clover Moore, la maire de Ciné. Selon elle, ces festivités vont attirer plus d'un million de touristes à Ciné.
Sydney is very proud of the fact that we have the biggest celebration of the Lunar New Year, the Chinese New Year, outside Asia. And it's something that has grown from a very small community event 21 years ago to be this very large event. And people come from all around the world, especially from Asia, to celebrate with us.
Et un coup d'œil météo pour ce samedi. Perth, 38 degrés. Adelaide, 32. Melbourne, 26. Hobart, 23. Canberra, 35 degrés. Wollongong, 29 degrés. Sydney, 31 degrés. Newcastle, 29. Brisbane, 30. Cairns, 34 degrés. Et Darwin, 33 degrés. Et à présent, un rappel des titres avant de passer au magazine des sports. L'opposition fédérale demande au gouvernement australien des comptes sur l'effet Trump sur les accords avec l'Australie en matière d'immigration. Et dernière ligne droite pour le second tour des primaires de la gauche sur fond de scandale à droite. Et après avoir reçu le Premier ministre britannique, le président Trump va s'entretenir avec d'autres leaders mondiaux.